Jean-Pierre Mercier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière, c'est le parti de Nathalie Arthaud qui est candidate à l'élection présidentielle. Nathalie Arthaud qui se présente comme la candidate des travailleurs. On voit qu'aujourd'hui il y a cette menace terroriste qui est ressurgie dans la campagne. Comment se faire entendre? Comment vous démarquez-vous?
On se démarque tout simplement, vous l'avez dit, c'est la candidate du camp des travailleurs, c'est la candidate communiste dans cette élection présidentielle. Notre objectif réussi, je pense, aussi dans cette campagne, c'est d'avoir fait entendre ce camp des travailleurs, c'est-à-dire que la majorité de la population, ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre, ils ont des intérêts bien spécifiques à défendre, à faire entendre dans cette campagne
est-ce
électorale.
Est-ce que c'est pas réducteur de réduire finalement cette campagne présidentielle et la présidentielle en général aux travailleurs ?
Vous rigolez, je le dis, c'est la majorité de la population qui fait fonctionner la société, qui produit, qui produisent toutes les richesses, tous les profits. Réduire, nous, on s'adresse à 95% de la population. Entendez
bien. Face à la menace terroriste, est-ce qu'il faut pas prendre en compte aussi d'autres points importants dans les programmes?
Vous savez, la menace terroriste, c'est vrai qu'elle existe. Et
le président et le chef des armées aussi.
Une des solutions, ça serait que l'armée française arrête de faire la guerre en Irak, arrête de faire la guerre en Afrique, arrête de faire la guerre en Libye, dans tous ces pays. À chaque fois que l'armée française, mais les armées occidentales interviennent dans ces pays-là, c'est ça qui nourrit le terrorisme et on le paye ici au prix fort.
Il n'y a pas une réussite quand même au Mali, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme?
Vous savez, quand l'armée française intervient au Mali, c'est pas pour la population, c'est pas pour protéger la population, ça c'est un leurre. C'est essentiellement pour protéger les intérêts, par exemple, d'Areva, pour qu'ils puissent toujours prendre l'uranium pour faire fonctionner les centrales nucléaires ici en France.
Et en Syrie, par exemple, quand on voit Bachar el-Assad qui gaze sa population, est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on négocie avec lui? Comment on fait?
Bien sûr, nous, on condamne évidemment ce terrorisme d'État de Bachar el-Assad qui a vraisemblablement utilisé des gaz contre la population, mais aussi on condamne le terrorisme d'État dans le sens les interventions américaines, les interventions françaises, les interventions occidentales. Il faut bien comprendre que à chaque fois que les puissances occidentales interviennent aux quatre coins du monde pour bouleverser la vie des populations, c'est ça qui nourrit le terrorisme. Ça fait des décennies que en fait l'humanité ne connaît pas la paix. Et les principaux responsables sont quand même les États américains, français, anglais, les États occidentaux.
Vous entendez réduire en fait le terrorisme par la lutte contre le capitalisme. Expliquez-nous.
Bien sûr, c'est tant qu'on n'aura pas changé de fond en comble cette société, tant que les travailleurs, la population ne prendra pas en main directement la réorganisation de l'économie et ne dirigera pas directement la société, on connaîtra les guerres. Vous savez, c'était Jean Jaurès qui le disait, que le capitalisme porte en lui la guerre. C'est une évidence pour nous. Vous savez, il y a des conflits d'intérêts.
Il y a que des intérêts économiques finalement derrière ces guerres?
Bien sûr, sinon il y a quel autre intérêt? En tout cas, on l'explique que comme ça. Vous savez, le malheur des populations au Moyen-Orient, c'est qu'elles vivent sur des mines de pétrole, sur des puits de pétrole. Et c'est ça leur malheur. Le malheur des populations africaines, c'est que l'Afrique est extrêmement riche, a du minerai, a tout un tas de richesses, et c'est ça leur malheur. Et c'est le comble.
On a vu que la Farge avait payé des taxes à l'État islamique pour pouvoir continuer ses activités en Syrie. Vous condamnez évidemment ces actes du cimentier?
On les condamne et il faudrait qu'ils passent, faudrait le faire passer en justice. C'est une évidence. Mais ça, c'est aussi tout le problème que l'on pose, que Nathalie Arthaud pose quand elle met en avant le contrôle des entreprises, le contrôle sur les conseils, les décisions des conseils d'administration des grandes entreprises. Comment on peut laisser une entreprise comme Lafarge faire une telle politique aux quatre coins du monde? Il faudrait que les travailleurs de Lafarge puissent contrôler les décisions du conseil d'administration de Lafarge. Il n'y a que cette solution.
Ça a permis de faire travailler aussi les gens de chez Lafarge, notamment en Syrie.
Alors, je pense qu'on peut les faire travailler autrement et pour d'autres causes, notamment à construire tout un plan de logements sociaux à bas prix. Il y a énormément de choses à faire sur la planète en termes de construction et pas forcément payer Daesh ou se porter candidat pour construire le mur entre le Mexique et les États-Unis.
On a vu qu'il y avait beaucoup de terroristes qui avaient circulé à travers l'Europe. Nathalie Arthaud, elle, est pour la suppression des frontières. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là?
Non, le danger, c'est pas les migrants. Le danger, c'est pas les
Pas les
populations.
migrants, mais c'est cette circulation
Alors comment
de personnes qui
mais alors ça,
parfois
c'est
sont
un
passées
leurre.
pour des migrants ou pas, hein, mais qui sont des terroristes et qui voyagent un peu partout en
Oui, mais
Europe.
ça c'est faire peur, c'est vraiment faire peur aux gens et rentrer dans le fantasme. Comment pourrait-on contrôler chaque personne en Europe ou même à travers le monde? C'est
Remettre des
impossible.
frontières?
Fermer les frontières, vous faites comment pour fermer les frontières? Et puis c'est toujours contre les mêmes qu'on va s'attaquer. Vous savez, quelqu'un qui veut se faire sauter avec une ceinture d'explosifs partout dans n'importe quel pays, il y arrivera. Il y arrivera. Le problème, il n'est pas de fermer les frontières, parce qu'après, ça se reporte sur l'ensemble de la population. Nous, on veut que chaque travailleur en Europe, et même au-delà de l'Europe, ait le même statut qu'un milliardaire. C'est-à-dire un milliardaire, lui, il peut s'installer où il veut, il peut vivre où il veut, il peut se transporter où il veut. Et bien, il faudrait que les travailleurs aient les mêmes droits et ce même statut. Il n'y a aucune raison.
Vous souhaitez abroger la directive sur les travailleurs détachés?
Les travailleurs détachés, ce vaste débat, c'est pas les travailleurs détachés qu'on désigne du doigt, ce sont les patrons qui les utilisent. C'est les patrons qui mettent en concurrence les travailleurs les uns contre les autres, qui essayent de tirer vers le bas les salaires, qui essayent de détruire les conditions de travail, qui essayent de détruire les droits collectifs. Il faudrait en Europe, bien sûr, que y ait une mobilisation générale pour faire en sorte qu'il y ait, par exemple, un SMIC européen. Qui est par exemple des droits sociaux maximum pour l'ensemble des pays européens. Et
Mais
là,
les
on
charges
aurait.
sociales sont toujours différentes en France
Vous voulez parler des
comparativement à la
cotisations
Pologne,
sociales?
des cotisations sociales.
Écoutez, il faudrait que y ait une harmonisation au plus haut de l'ensemble des droits collectifs pour les travailleurs. Ça serait tout à fait normal et logique. Et ça, il faudrait qu'il y ait une mobilisation de la part du monde du travail. Mais en tout cas, c'est un objectif, oui, que l'on met en avant pour que éviter cette mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, qui est quand même organisée par les patrons ici en France, par les patrons en Allemagne, par les patrons en Pologne. Ce sont le grand patronat qui organise cette mise en concurrence. Et c'est nous les travailleurs, qui en payons le prix fort.
Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, il a un plan A et un plan B pour l'Europe. On va l'écouter et vous réagissez juste après.
Et Madame Merkel a été d'une rationalité totale. Elle s'est trouvée deux fois en face d'un président français qui lui a dit « Madame, où est-ce qu'on signe ?» après avoir dit le contraire avant. Donc, pour la première fois, quelqu'un va venir et dire bah, « Écoutez, on discute, nous sommes 18% de l'économie européenne, les Allemands 20, c'est-à-dire touche-touche. Hein. » Il est normal dans une négociation qu'on ait pour soi un argument de fond, qui est le plan B. C'est, écoutez, si vous voulez discuter de rien, et bien, si vous voulez discuter
Donc
de
le
rien.
Plan B, c'est la sortie unilatérale de ces traités.
Unilatéral, nous verrons si c'est que nous qui sortons.
C'est ce que vous avez dit, quand même.
Oui,
Sortie unilatérale.
Oui.
Vous êtes pour la sortie de l'Union européenne?
Écoutez, moi, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, ce qui me gêne énormément, c'est toute cette phobie autour de Madame Merkel, toute cette phobie autour des Allemands, toute cette phobie autour de l'Europe. C'est une manière de protéger ceux qui sont en France, le grand patronat qui est en France, qui licencie, qui supprime des emplois, qui baisse les salaires, qui détruit les conditions de vie, qui détruit les droits collectifs. C'est pas l'Europe qui a, par exemple, ordonné la fermeture de l'usine de PSA Aulnay où j'ai travaillé pendant 18 ans. C'est pas l'Europe qui décide de supprimer
Donc l'Europe n'est
600.
pas responsable de tous nos maux.
Bien sûr que c'est pas l'Europe qui est
Donc on
responsable.
reste dans l'Union européenne, on reste avec l'euro pour
Bien
vous?
sûr, il faudrait la changer, cette Union européenne. Oui, on est, nous, pour véritablement abolir les frontières et faire en sorte que les travailleurs européens, quel que soit le pays où ils
Mais c'est un peu
vivent,
ce qu'il veut, Jean-Luc Mélenchon.
qu'ils aient les mêmes droits collectifs. Jean-Luc Mélenchon, non, c'est pas ça qu'il dit. Il a un discours nationaliste, il a un discours souverainiste. Alors, c'est le souverainisme de gauche. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, souverainisme de gauche. Dans cette société capitaliste, quand on est un travailleur, on ne peut pas avoir de souveraineté. On dépend d'un patron, on dépend d'un gouvernement. Et donc,
Mais
il
ça vous
faut.
inspire, par exemple, le modèle allemand?
Alors, quel modèle allemand? Si c'est des grèves allemandes dont vous me parlez, oui, ça m'inspire. Vous savez, le modèle allemand, c'est des salaires qui sont extrêmement bas. C'est peut-être qu'il y a moins de chômage, mais en tout cas, le niveau de vie, il est aussi en pleine dégradation et en plein recul. Vous savez, dans tous les pays d'Europe, les travailleurs connaissent les mêmes attaques. On repousse l'âge de la retraite, on diminue les salaires, on fait sauter la durée hebdomadaire du travail. On a exactement les mêmes
Vous
intérêts
voulez
par-delà
abroger
les
la loi El
frontières.
Khomri?
Bien sûr qu'il faudrait l'abroger, et bien sûr qu'il faudrait, par exemple, pour la durée hebdomadaire du temps de travail, il faudrait la baisser. pour le...
Vous êtes pour 32 heures, c'est pas clairement écrit dans le programme de Nathalie Arthaud.
On est pour ce que les travailleurs pourront imposer par leur lutte. Si c'est 32 heures, tant mieux. Il faudrait, en parallèle, parce qu'on peut toujours parler de baisse du temps de travail, si on parle pas d'embauche massive de chômeurs dans les entreprises, ça sert pas à grand chose. Nous, on est sur l'emploi, sur le terrain de l'emploi, on met en avant cette mesure qui nous paraît fondamentale, c'est l'interdiction des licenciements. On peut pas tolérer qu'une entreprise qui fait des bénéfices, qu'une grande entreprise qui fait des bénéfices en temps de crise économique puisse licencier ou supprimer des emplois. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Et oui, il faudrait...
Quand vous voyez Whirlpool, par exemple, un groupe américain qui décide d'aller en Pologne parce que c'est moins cher de produire des lave-linges là-bas, qu'est-ce que la France peut contre ça ?
Lui interdire de licencier. Qui produise ?
Mais elle n'est pas obligée de venir s'installer en France.
Oui, d'accord. Ben
là,
elle est en France. Oui. Il y a des travailleurs qui sont dans cette entreprise, qui travaillent. Il faut que l'emploi soit maintenu. Il faut que le travail et les salaires soient maintenus.
Mais qu'est-ce qu'on peut contre un groupe américain qui vient s'installer encore une fois en France ?
Le forcer. Alors, c'est vrai qu'un président de la République, des députés...
Mais il n'y aura plus jamais de groupe étranger qui viendront s'installer en France si on les force à interdire les licenciements, non ?
Mais ça, c'est un mythe. Oui, il faudrait... et ça, c'est que par la mobilisation que les travailleurs peuvent imposer au patron de ne pas licencier, d'embaucher massivement les chômeurs et pour se répartir le travail. Parce qu'il est quand même incroyable dans cette société, en France, aujourd'hui, où quand on a la chance d'avoir un travail, on est en train, littéralement, et je pèse mes mots, de crever au chômage, de crever au travail sous des cadences qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc on n'a pratiquement plus le droit de se mettre en arrêt de travail, plus le droit de se mettre en arrêt maladie, de déclarer ces accidents du travail. Et de l'autre côté, à l'extérieur des entreprises, des jeunes qui ne demandent qu'à travailler pour pouvoir démarrer dans la vie. Oui, il y a une mesure de salut public, ça serait d'interdire les licenciements. Et ça serait en imposant un rapport de force qu'on pourrait y arriver.
On va écouter François Fillon qui, lui, veut réduire la bureaucratie et supprimer, vous le savez, quelques 500 000 postes de fonctionnaires. On écoute.
Il y a 5 500 000 fonctionnaires en France, enfin, emplois publics plus exactement. Sur ces emplois publics, on met toujours en avant les emplois opérationnels, ceux qui sont au front, les policiers, il y en a 150 000, les infirmières, il y en a 290 000. On parle jamais de l'énorme bureaucratie qui s'est créée dans notre pays. Il y a beaucoup plus de gens qu'administrent la santé que de médecins et d'infirmières qui soignent. Il y a beaucoup plus de gens qu'administrent l'agriculture que d'agriculteurs dans les champs. Il y a un moment où cette bureaucratie écrase le système. Et c'est aussi pour ça que je veux réduire le nombre d'emplois publics.
Cette bureaucratie qui écrase le système. Vous ne partagez pas l'avis de François Fillon ?
Scandaleux, bien sûr que je ne le partage pas. Là, il est extrêmement clair. Il est pour
On
n'a
pas un poids de l'État qui est trop important, qui finalement est un frein en France ?
Bien sûr que non. Vous savez, vous allez dans les services publics, vous allez dans les collectivités territoriales pour faire une démarche administrative, vous faites une queue pas possible parce que en face, ils sont dans les guichets, derrière les guichets, ils sont toujours en sous-effectif. Voilà, et ça court partout. Non, alors s'il veut supprimer des emplois, peut-être qu'il pourrait commencer par les emplois fictifs qu'il a autour de lui. Voilà, bon, je dis ça comme ça. Mais sinon, bien sûr, là, il est en train de nous dire que s'il arrive aux manettes, il va créer 500 000 chômeurs de plus, en tout cas 500 000 salariés, travailleurs qui ne pourront pas bénéficier d'un emploi, en tout cas dans le service public. C'est un véritable scandale. Au moins, lui, il annonce la couleur. S'il arrive au pouvoir, il va nous attaquer. Il faudra qu'on se défende.
Et vous avez déjà prévu des luttes en cas de victoire de François Fillon ?
Alors, vous savez, les luttes, elles ne se prévoient pas comme ça. On les appelle dans le sens où il faut absolument que les travailleurs comprennent qu'il va falloir... que ça va être nécessaire de lutter, de se mobiliser, de se rassembler et de prendre conscience qu'on a des intérêts à défendre dans cette société et que si on n'arrive pas à les défendre, on se fera attaquer et on va encore reculer. Oui, il y a une nécessité, il va y avoir une nécessité de lutter, d'occuper les usines, de faire grève et de se mobiliser.
Merci Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous ce matin. Porte-parole de Lutte Ouvrière, le parti de Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle. Très bonne journée à vous.